Livret d'accueil du Centre régional Basse Vision et Troubles de l'Audition, version 12 février 2020. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein du Centre régional Basse Vision et Troubles de l'Audition, communément appelé CRBVTA. Ce livret vous est destiné, ainsi qu'à votre entourage, pour que vous disposiez de toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre parcours de rééducation et réadaptation. Il vous a été remis en main propre par l'assistante sociale qui vous en fait la lecture en grande partie. Il est également disponible en version numérique et audio sur notre site internet afin qu'il soit accessible pour tous. Créé en 2009 à l'initiative de la Mutualité de la Vienne et de la Mutualité Anjou-Mayenne, le CRBVTA est un établissement privé à but non lucratif. Il est géré par le GCS Handicap Sensoriel, qui œuvre pour proposer des solutions innovantes d'accompagnement des personnes déficientes sensorielles. Notre objectif est de vous accompagner pour restaurer votre autonomie et ainsi retrouver une meilleure qualité de vie. Toute l'équipe de CRBVTA se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations et s'assurer de la meilleure prise en charge possible tout au long de votre parcours. Delphine Deveau, directrice du GCS Handicap Sensoriel. Sommaire. Les 9 chapitres développés sont les suivants. Plan d'accès, votre parcours, organigramme du CRBVTA, l'équipe, vos droits, vos obligations, informations pratiques, la qualité et les annexes. Le Centre régional Basse Vision et Troubles de l'Audition est situé sur 2 sites différents. Tout d'abord, plan d'accès, du site de Saint-Benoît. Ce site est situé 12 rue du Pré-Médard, 86 280 à Saint-Benoît. Pour vous situer son emplacement, quelques principaux points de référence pourraient être le rond-point de la route de Noyer, l'unité de dialyse Aura Poitou-Charentes et le bureau des retraites SICAS Agirc-Arcot qui se trouve au 14 rue du Pré-Médard. Le Centre régional Basse Vision et Troubles de l'Audition dispose également d'une antenne en Charente. Celle-ci se trouve au sein du Centre de soins de suite et de réadaptation Les Glamots à Roulé-Saint-Estèphe, au sud d'Angoulême. Les horaires d'ouverture de ces deux centres, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Votre parcours. L'admission. Le centre accueille les adultes atteints de déficiences visuelles et ou de troubles de l'audition. Pour être accueilli au sein de l'établissement, il est nécessaire d'adresser un dossier comprenant notamment une fiche médicale à compléter par votre médecin généraliste, une fiche ophtalmologiste ou ORL à compléter par votre médecin ophtalmologiste ou ORL, une fiche administrative concernant votre situation personnelle et vos attentes, à remplir par vous ou bien par votre entourage. Une fois votre demande d'admission acceptée par le médecin du centre, le service vous adresse une proposition de rendez-vous pour la phase d'évaluation. Les évaluations. Au cours de cette première étape, vous allez rencontrer une équipe pluridisciplinaire qui effectuera un bilan personnalisé de vos capacités visuelles et ou auditives. Sous la coordination du médecin, un projet de réadaptation est construit par l'équipe pluridisciplinaire. Il vous sera présenté par le médecin qui recueillera votre accord pour la poursuite du parcours. Tous les patients, qu'ils soient pris en charge sur le site de Saint-Benoît ou sur l'antenne de Charente située à Roulé-Saint-Estèphe, bénéficient d'une première évaluation avec le plateau technique de Saint-Benoît. La rééducation-réadaptation. La rééducation-réadaptation a pour objectif de vous permettre de retrouver une autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Pour cela, vous rencontrerez plusieurs professionnels qui vous proposeront des séances de rééducation-réadaptation en hôpital de jour. Ces séances, à raison de 2 à 3 par demi-journée, sont échelonnées sur plusieurs semaines. La durée de votre parcours dépend du projet défini lors de l'évaluation. Pour les personnes ayant une rééducation-réadaptation en déficience visuelle, ces séances ont lieu sur le site de Saint-Benoît ou sur le site de l'antenne de Charente, à Roulé-Saint-Estèphe, en fonction de votre lieu de résidence. Fin de parcours. À la fin de votre parcours, l'équipe pluridisciplinaire rédige un bilan de fin de rééducation-réadaptation qui vous sera adressé ainsi qu'aux professionnels de santé que vous aurez désignés au préalable. Ce bilan reprend les objectifs de début et les progrès réalisés tout au long de votre parcours au centre. Modalité d'accueil de l'entourage. Avec votre accord et celui du professionnel, votre entourage peut être présent au cours de votre prise en charge. Votre entourage pourra y trouver des informations sur votre handicap. Il pourra également amener des éléments complémentaires sur votre situation, se reporter au paragraphe « La personne de confiance » dont nous parlerons plus loin. Organigramme du Centre régional basse vision et troubles de l'audition. En haut de la pyramide se trouve l'administrateur, M. Yves Pelletier, puis le directeur général, M. Hervé Doge, avec les services financiers gérés par la Mutualité française de la Vienne et le service ressources humaines géré par la Mutualité française anjou-malienne. Puis la directrice, Madame Delphine Deveau, épaulée par la qualiticienne et l'assistante de direction. Vous serez tout d'abord en contact avec les secrétaires médicales. Les différentes équipes du CRBVTA sont les suivantes. L'équipe médicale est constituée de médecins ophtalmologues et de médecins ORL. L'équipe déficience visuelle de Saint-Benoît est constituée de professionnels suivants. Ergothérapeute, opticien, orthoptiste, psychomotricien, instructrice ou instructeur en locomotion, assistante de service social, psychologue. L'équipe déficience visuelle de Charente à Roulé-Saint-Estèphe est constituée d'ergothérapeute, opticienne, orthoptiste, instructeur ou instructrice en locomotion, assistante de service social et psychologue. L'équipe déficience auditive de Saint-Benoît est constituée d'audioprothésistes, orthophonistes, sophrologues, assistantes de service social, psychologues, dont une psychologue en thérapie comportementale et cognitive. L'équipe. Les différents professionnels du centre sont des spécialistes dans le domaine de la basse vision et des troubles de l'audition. L'équipe médicale. L'équipe médicale se compose de deux médecins ophtalmologues et d'un médecin ORL. Ils assurent la coordination des parcours de réadaptation en rééducation pour chacune de leurs spécialités. Ils rencontrent le patient en début et en fin de parcours et à chaque fois que l'équipe pluridisciplinaire le juge nécessaire. Les professionnels des troubles de l'audition et des acouphènes. L'audioprothésiste. L'audioprothésiste intervient auprès des personnes présentant des troubles d'audition malgré leur appareillage auditif et auprès de patients atteints d'acouphènes. L'audioprothésiste explique, conseille et accompagne les personnes déficientes auditives et ou acouphéniques. L'orthophoniste. L'orthophoniste a pour mission de prévenir, évaluer et traiter les troubles de compréhension et d'expression du langage oral des patients souffrant de troubles auditifs, ainsi que les troubles cognitifs pouvant y être associés. La psychologue en thérapie comportementale et cognitive. La psychologue en thérapie comportementale et cognitive propose aux personnes souffrant d'acouphènes de comprendre les mécanismes de l'attention et de la mémoire impliqués dans la perception des acouphènes, de mettre en place, par des exercices, des mécanismes attentionnels qui vont permettre peu à peu de réduire la place des acouphènes. Elle propose ensuite de comprendre et de modifier l'impact du stress généré par les acouphènes. Le sophrologue. Le sophrologue a pour mission de proposer aux patients souffrant d'acouphènes des séances pendant lesquelles il accompagne le patient à utiliser des techniques lui permettant de retrouver un équilibre, de la détente et de la confiance en soi. La pratique de la sophrologie permet le développement de la résistance au stress, aux situations anxiogènes dont les acouphènes font partie. Les professionnels de la basse vision. L'ergothérapeute, AVJ, qui sont les activités de la vie journalière. L'ergothérapeute AVJ accompagne les personnes déficientes visuelles dans l'acquisition de leur autonomie pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne. Il est proposé à chaque personne de prendre conscience de ses capacités, de développer ses habiletés manuelles et d'apprendre de nouvelles stratégies gestuelles pour pallier les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. L'objectif est de retrouver confiance en soi par l'apprentissage de gestes adaptés. L'ergothérapeute conseille également sur des aides techniques et sur l'aménagement du domicile. L'instructrice ou instructeur en locomotion. L'instructrice ou instructeur en locomotion va permettre à la personne de retrouver une certaine autonomie dans ses déplacements avec davantage d'assurance, d'aisance et de confiance en elle en fonction de ses capacités cognitives, sensorielles, motrices et psychosociales. L'apprentissage s'appuie sur la sollicitation des possibilités visuelles préservées et sur le développement des autres sens. Des aides techniques peuvent être proposées afin de favoriser les déplacements sécurisés avec davantage de confort. L'opticienne, l'opticien. En lien avec les autres professionnels, l'opticien propose des essais d'aides techniques en tenant compte des possibilités visuelles et des activités du patient afin que l'environnement soit mieux adapté à ses besoins. L'orthoptiste spécialisé en basse vision. L'orthoptiste évalue les capacités visuelles fonctionnelles et la demande des patients. Il cherche les conditions environnementales les plus favorables, comme les éclairages ou le contraste, permettant l'utilisation du potentiel visuel. Son objectif est d'obtenir un niveau d'utilisation optimal de la vision fonctionnelle avec une bonne manipulation des aides optiques ou techniques préconisées par l'opticien. Il permet la prise de conscience de la vision fonctionnelle, ses possibilités et ses limites, son développement et son utilisation. Le psychomotricien. Le psychomotricien accompagne les personnes déficientes visuelles pour leur permettre d'optimiser les capacités de déplacement, équilibre, coordination, posture, tonus, de développer leur conscience corporelle, schéma corporel, et d'accéder à un système de représentation spatiale adapté. Il intervient notamment par le développement de la stimulation des sens compensatoires, audition, olfaction, kinésie et toucher, en séances individuelles et collectives. L'équipe psychosociale, l'assistante de service social. L'assistante de service social propose d'accompagner le patient dans ses démarches, de l'informer de ses droits, de rechercher les aides financières qui vont lui permettre d'avoir accès à toutes les aides techniques compensatrices, de définir avec lui le soutien nécessaire. Elle l'accompagne également dans ses recherches pour établir des liens avec l'entourage et les services de proximité pour créer un lien social et rompre ainsi l'isolement. La psychologue clinicienne. La psychologue clinicienne propose un espace d'écoute en soutien au parcours de rééducation. À la demande du patient, elle peut rencontrer sa famille ou ses proches. Enfin, la psychologue anime des séances de groupe de parole afin d'offrir aux patients la possibilité d'échanger à propos de leur situation et de l'évolution de leur parcours de rééducation. L'équipe administrative. Les secrétaires médicales programment les séances d'évaluation et de rééducation. Elles assurent la gestion administrative de la prise en charge. Elles sont les interfaces entre le patient, le médecin et l'équipe pluridisciplinaire. Vos droits. Dossier médical et droit d'accès. Les médecins de l'établissement contrôlent et coordonnent le projet de rééducation-réadaptation dont vous avez besoin. Ils sont à même de vous informer sur l'évolution de votre état de santé. Ils possèdent un dossier médical vous concernant et conformément à l'article R710-2-2 du Code de la santé publique, vous pouvez nous demander la communication de ce dossier. Pour cela, vous devez en faire la demande écrite auprès de la directrice du centre avec une photocopie de votre carte d'identité. Secret médical. L'ensemble des professionnels et intervenants du centre sont soumis au secret médical. Toutes les informations vous concernant sont protégées par la confidentialité. À ce titre, aucun renseignement n'est donné par téléphone. Au cours de votre entretien avec le médecin, vous autorisez la communication des éléments de votre parcours aux professionnels extérieurs du centre. Le respect de la personne et de son intimité. La personne hospitalisée est traitée avec égard. Sa vie privée est respectée, son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. Confidentialité. L'ensemble du personnel est soumis au devoir de discrétion, de réserve et au secret professionnel sur toutes les informations dont il aura connaissance dans le cadre de son travail. Les informations concernant les personnes hospitalisées sont conservées de manière à assurer leur confidentialité. Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance. Le centre est engagé dans une démarche de prévention de la maltraitance. On peut définir la maltraitance comme tout acte ou comportement physique, verbal ou autre, nuisant au bien-être, à l'épanouissement et au développement de la personne. Si vous êtes confronté à une situation de maltraitance, composez le 3977 qui répond aux maltraitances commises envers des personnes âgées ou des personnes handicapées. De plus, en tant que patient, nous vous rappelons que toute personne qui constate ou est informée d'une situation de maltraitance est tenue de le signaler conformément à l'article 434-3 du Code pénal. La personne de confiance. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé prévoit que toute personne majeure hospitalisée en France peut nommer une personne de confiance qui l'accompagnera lors de son hospitalisation. Cette personne de confiance pourra être son médecin traitant, un parent ou un proche majeur. Elle doit être désignée obligatoirement par écrit. Cet écrit doit être renouvelé lors de chacune des hospitalisations. Même en cours d'hospitalisation, il est possible au patient d'annuler son choix initial et de nommer une autre personne. La personne de confiance pourra seconder la personne hospitalisée dans toutes ses démarches administratives au sein de l'établissement d'accueil. Elle aura le droit de se faire communiquer les informations jusqu'ici réservées à la famille et au malade lui-même. Elle pourra assister aux entretiens médicaux et être consultée en cas d'impossibilité d'expression du patient hospitalisé. Les directives anticipées. Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directives anticipées afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l'hypothèse où elle ne serait pas à ce moment-là en capacité d'exprimer sa volonté. Le patient doit les écrire, les dater et les signer lui-même. S'il ne peut pas les écrire lui-même, il peut les dicter en présence de deux témoins, dont obligatoirement la personne de confiance qu'il a désignée. Avant une éventuelle décision de limitation ou d'arrêt de traitement, il appartiendra au médecin qui s'occupe du patient de s'enquérir de leur existence éventuelle auprès de la famille ou des proches. La loi prévoit que le médecin devra en tenir compte dans sa décision. Le document de recueil des directives anticipées est disponible sur demande au professionnel. La personne à prévenir. La personne à prévenir ne doit pas être confondue avec la personne de confiance. Lors de votre admission, il vous sera demandé de désigner une personne à prévenir en cas de problème d'ordre administratif pendant votre séjour. La commission des usagers. Cette commission est chargée de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leur démarche. Elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes et de leurs proches. Gestion des réclamations. Un cahier des réclamations et un livre d'or sont disponibles dans la salle d'attente. Les réclamations sont étudiées au cours des réunions de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. L'établissement respecte au quotidien la charte du patient hospitalisé. Celle-ci est affichée en salle d'attente. Informatique et liberté. À l'occasion de votre prise en charge au centre, des renseignements administratifs et médicaux vous concernant sont recueillis. Ils font l'objet d'un traitement informatique destiné à faciliter le fonctionnement de l'établissement. Les destinataires des données sont tous les intervenants du centre Basse Vision et Troubles de l'Audition. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 et au règlement de l'Union européenne 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018, selon le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Madame la Directrice du Centre Régional Basse Vision et Troubles de l'Audition. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. La politique de confidentialité et de sécurité de l'établissement est disponible sur le site internet https://crbvta.fr/. Laïcité et neutralité. Toute personne dispose d'un égal accès aux soins, sans distinction de sexe, de race, d'ethnie, d'origine, de religion ou de croyance philosophique. L'expression des convictions religieuses ne doit pas porter atteinte à la qualité des soins, aux règles d'hygiène et au fonctionnement régulier du service. Vos obligations. L'hygiène. L'établissement met à votre disposition des locaux propres et entretenus qui doivent être respectés par les visiteurs et les patients. La présence d'animaux est strictement interdite, hormis celle des chiens guides d'aveugles ou d'assistance. Conformément à la réglementation en vigueur, une commission a été mise en place afin de prévenir les risques infectieux et définir un programme d'action de gestion des risques liés à l'hygiène. Respect d'autrui. Comme tout un chacun, vous devez traiter avec égard le personnel qui participe à votre prise en charge, ainsi que les autres patients et leur entourage. Selon le décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer dans l'établissement. Il est également interdit d'y consommer et d'y apporter de l'alcool. La sécurité. Les consignes d'évacuation des locaux en cas d'incendie ainsi que les consignes confinement ou évacuation en cas d'attaque terroriste sont affichées dans la salle d'attente. En cas d'alarme, vous devez rester calme. Le personnel du centre viendra vous indiquer les démarches à suivre. En cas de comportement suspect, de fumée ou odeur suspecte, merci de prévenir le personnel. Dons et pourboires. Il est rigoureusement interdit au personnel de l'établissement de recevoir quelconque don ou pourboire. Information pratique. Où se restaurer? Sur le site de Saint-Benoît, des restaurants, brasseries et cafétérias sont à proximité du centre. Une liste est à votre disposition au secrétariat sur simple demande. Un distributeur de boissons chaudes est à votre disposition en salle d'attente. Vous êtes également autorisé à prendre le déjeuner sur place, dans un lieu approprié. Pour cela, voir les modalités auprès du secrétariat. Pour l'antenne de Charente située à Roulé-Saint-Estèphe, les professionnels vous indiqueront les lieux appropriés pour vous restaurer. Les frais de séjour. Si vous êtes assuré social, 80% des frais de séjour sont pris en charge par le régime de protection sociale. Les 20% restants, que l'on appelle le ticket modérateur, sont à votre charge ou à celle de votre mutuelle si vous en disposez ou si votre contrat le prévoit. Les frais de séjour peuvent être pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Plusieurs situations entraînent cette exonération. Lorsque vous êtes à 100% pour une affection de longue durée, ALD, et que l'hospitalisation au centre est bien en rapport avec cette affection, ou bien lorsque vous êtes à 100% pour toutes les prestations. Les bons de transport. Si vous souhaitez bénéficier des services d'un transport, la première prescription médicale est établie par votre médecin traitant. Le centre établit ensuite les autres bons de transport. Plus d'informations. Vous pouvez retrouver toutes les actualités du centre sur le site internet du GCS Handicap Sensoriel, adresse https://gcshandicapsensoriel.fr/, ou le site internet du CRBVTA, https://www.crbvta.fr/. Sur les réseaux sociaux, Facebook, voici la direction complète. https://gcshandicap-sensoriel-du-poitou-charente-4556-412-41279739-3-9/TIMELINE/. Ou sur Twitter, @GCSHandicap. La qualité. La certification. La certification est une procédure d'évaluation externe réalisée par des professionnels de santé, mandatés par la Haute Autorité de Santé. Elle permet d'évaluer le fonctionnement global de l'établissement de santé. Le rapport de certification est consultable en ligne sur le site www.has-santé.fr. Dans le cadre de sa démarche qualité, les indicateurs sont affichés dans la salle d'attente et disponibles sur le site internet du CRBVTA. Le questionnaire de satisfaction. Un questionnaire général pour évaluer la satisfaction des patients sur l'accueil et la prise en charge par les différents professionnels vous sera proposé en fin de parcours. Le bilan de la douleur. L'équipe pluridisciplinaire du CRBVTA porte une attention particulière à la prise en charge de la douleur des patients. À ce sujet, le médecin coordonnateur reste votre principal interlocuteur. En effet, vous aborderez cette question avec lui lors d'un temps d'échange formel au cours de vos différents entretiens. En fonction de la plainte exprimée, le médecin coordonnateur, de concert avec votre médecin traitant, définira la prise en charge à mettre en place et vous transmettra ainsi toutes les informations nécessaires. Annexe. La commission des usagers ou CDU. Sa mission. La commission est chargée de veiller au respect des droits des usagers. Elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes et de leurs proches. Elle se réunit au moins une fois par trimestre pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises par la direction générale du GCS Handicap Sensoriel. La commission des usagers est composée des membres suivants. La présidente, Madame Delphine Devaux, directrice du GCS Handicap Sensoriel. Le médiateur médecin titulaire, Madame Brigitte Davaillot, médecin ORL. Le médiateur non médecin, Madame Léa Konsbicki, assistante de service social. Le médiateur non médecin, Madame Morgane Taupin, ergothérapeute. Le représentant de l'association AVH, Association Valentin Aoui, Madame Véronique Fonteny, représentant titulaire des usagers. Le représentant de l'association France Acouphènes, représentant titulaire des usagers, Monsieur François Morel. Le représentant de l'association France Acouphènes, représentant suppléant des usagers, Monsieur Jacques Haquet. Plaintes et réclamations. En cas de plainte ou de réclamation, un registre est à votre disposition dans la salle d'attente. Vous pouvez aussi adresser un courrier à Madame la Directrice, CRBVTA, 12 rue du Pré-Médard, 86 280 Saint-Benoît. courriel crbvta@orange.fr. Votre demande sera systématiquement examinée et une réponse écrite vous sera adressée. Fin du livret d'accueil du Centre régional Basse Vision et troubles de l'audition.